Bonjour, Monsieur Brunet-Jailly.
Bonjour.
Alors, merci d'accepter l'invitation à propos d'une situation politique européenne qui attire les regards du monde entier. Il y aura un référendum en Grande-Bretagne ce mois-ci. La question est assez grave. Les Britanniques vont devoir décider s'ils restent ou non à l'intérieur de l'Union européenne. C'est du jamais vu. Aucun pays membre n'avait jamais quitté l'Union. Comment envisagez-vous ce Brexit, comme on l'appelle, et pronostiquez-vous un résultat favorable, un oui à l'Europe?
Bon, c'est une question un peu compliquée dans la mesure où les Britanniques sont assez divisés sur le sujet.
Oui.
Par contre, la plupart des Européens, eux, sont pas du tout divisés, ils sont plutôt furieux. Mais bon, pour parler de la situation britannique et pour parler en quelque sorte de moi, ce que je prévois, je pense que David Cameron, qui est le Premier ministre, gagnera le référendum, donc ça sera un non à l'exit. Ce sera un non à sortir de l'Europe, mais ça risque d'être très proche.
Oui.
Alors pourquoi est-ce que je dis ça? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que les Britanniques sont appelés à faire un référendum là-dessus. Ça a une histoire, ça existait déjà en 1975. Le Royaume-Uni, en fait, se joint à l'Europe en 73, et en 75, il y a tout un débat pour qu'il y ait un référendum sur cette participation au projet européen. Et en fait, 67% des Britanniques à l'époque avaient voté en faveur de rester et de faire partie de l'Union européenne. Ce qui est à trait aujourd'hui, néanmoins, est un petit peu différent. Le 23 juin, quand le référendum aura lieu en Grande-Bretagne, on est face à, en fait, des positions qui sont un petit peu différentes à la position historique, parce qu'on en revient en quelque sorte à des positions un peu crispées, avec personnes ou les leaders britanniques qui sont contre la sortie et ceux qui sont pour la sortie de l'Europe. Hein, Brexit, c'est britannique, c'est British Exit.
Oui.
Il s'oppose en fait des leaders au sein même du parti au pouvoir à l'heure actuelle, où le Premier ministre, qui est en fait connu pour avoir eu une position, donc David Cameron, qui est connu pour avoir une position, je dirais, plutôt ambiguë quant à l'Europe,
oui,
et en fait le chef de file contre la sortie de l'Europe. Et donc, ça témoigne en quelque sorte de cette position très compliquée au sein du Parti conservateur britannique, où il y a en fait une division presque polarisée de ce parti, soit pour rester au sein de l'Europe, soit pour sortir. Alors, les positions sont les suivantes. Je veux juste les résumer très rapidement. Ceux qui sont pour la sortie, défendent de manière assez forte le fait que le Royaume-Uni doit pouvoir faire ses propres lois et doit pouvoir maintenir le contrôle absolu de sa souveraineté. Et que l'Europe, l'Union européenne, est devenue en quelque sorte une machine fédératrice ou fédérative qui transforme en quelque sorte le Royaume-Uni comme une partie de l'Europe, comme on aurait un États-Unis d'Europe, en quelque sorte, qui empêche les Britanniques de prendre des décisions très importantes dans tout un ensemble de domaines législatifs, de tout un ensemble de lois importantes. Et en particulier Michael Gove, qui est donc au sein du gouvernement Cameron, qui est responsable de tout ce qui est la partie juridique, responsable donc de toute la partie juridique au sein du gouvernement Cameron, a dit qu'il y a tout un ensemble de législations qu'ils ne peuvent plus en quelque sorte contrôler. Et défend donc cette position très forte. De l'autre côté, donc ceux qui sont pour rester au sein de l'Europe, les gens comme David Cameron par exemple, eux disent que ben le problème c'est que ça va coûter très très cher. Et que l'habilité du Royaume-Uni aujourd'hui d'influencer les politiques européennes et de en fait avoir accès à un marché, à un marché de libre échange avec le plus grand marché, je dirais, de libre échange au monde, qu'est l'Union européenne, va disparaître. Voilà. Donc c'est en fait ça le problème. C'est un problème de nationalisme contre des gens qui croient et qui pensent que l'Union européenne, en fait, c'est un futur positif pour le Royaume-Uni. C'est là qu'il y a une polarité importante.
La position de la gauche britannique est un peu particulière actuellement. Il y a des divisions également de ce côté-là. Jeremy Corbyn n'est pas très fan de l'Europe telle qu'elle est articulé et manifesté aujourd'hui en 2016, puisque c'est une Europe, selon lui, de technocrates, d'allégeance libérale, qui est très peu démocratique. Il a tout de même donné son appui à Cameron, finalement, puisqu'il encourage ses électeurs et les adhérents du Labour à voter pour le maintien dans l'Union. Mais sa position est tout de même, on va dire, il n'est pas très convaincu. Qu'en pensez-vous?
Ouais, il n'est pas convaincu, pas convaincant. Il est un peu comme David Cameron, de mon point de vue.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont pour rester dans l'Europe, ils sont quand même assis, en quelque sorte, entre deux chaises. Et c'est ça qui rend, en quelque sorte, le résultat final du référendum plutôt ambigu. C'est que au sein même de la gauche, comme vous le suggérez dans votre question, il y a des gens qui sont partisans de sortir de l'Europe et d'autres qui sont partisans de rester. Alors, laissez-moi peut-être parler un tout petit peu de ces positions, parce qu'il faut bien comprendre sur quoi s'appuie, en quelque sorte, ces positions qui sont: est-ce qu'on veut faire partie d'un marché de libre-échange ou est-ce qu'on veut pas faire partie d'un marché de libre-échange? Quels sont les avantages pour les citoyens, en quelque sorte, britanniques qui sont là ou pas? Premièrement, il faut bien savoir que depuis que le Royaume-Uni est devenu membre de l'Union européenne, ils ont payé plus pour faire partie du club qu'ils n'ont reçu d'argent. Donc, pour mettre les chiffres clairs, hein, je dis juste les chiffres, la contribution britannique annuelle en milliards d'euros est d'environ 18 milliards par an. Ils payent à l'Europe environ 18 milliards par an. Non, je me trompe, pardon, c'est 23 milliards par an.
D'accord.
La contribution britannique est de 23 milliards par an.
23 milliards d'euros par an. Oui, ok.
Au lieu de 18 milliards de livres sterling. Ils reçoivent en contrepartie environ 7 milliards.
Ah.
Peut-être 7 milliards et demi d'euros par an.
D'accord.
C'est-à-dire que les politiques européennes, en fait, qui ont eu un impact au Royaume-Uni, par exemple des politiques sur les moyens de transport, par exemple les autoroutes, par exemple des grosses infrastructures, le redéveloppement économique, la formation des gens, toutes les politiques européennes qu'on appelle les politiques de redistribution qui existent auprès des régions d'Europe, sont des politiques qui, en fait, ont contribué au Royaume-Uni moins de ressources que le Royaume-Uni paye. Néanmoins, il faut comprendre que cette équation-là, désavantageuse au Royaume-Uni, c'est la même pour de très nombreux pays qui sont d'anciens membres, comme le Royaume-Uni. Par exemple, le Luxembourg, par exemple l'Italie, par exemple la France, bien évidemment l'Allemagne, les Pays-Bas et aujourd'hui tous les pays scandinaves. Et les pays qui reçoivent beaucoup plus qu'ils ne payent sont tous les nouveaux membres. Et certains anciens membres, mais il y a une exception à ça, c'est la Grèce.
Ouais.
Même le Portugal et l'Espagne, qui sont en fait considérés comme des anciens membres aujourd'hui parce qu'ils sont joints à l'Europe dans les années 80, au milieu des années 80, aujourd'hui reçoivent à peu près autant que ce qu'ils payent. Mais, et c'est ça qui fait tout le débat en quelque sorte, il faut aussi bien comprendre que en termes de libre-échange, la capacité à avoir accès au marché libre de l'Europe aujourd'hui, c'est un marché pour le Royaume-Uni d'environ 650 milliards d'euros. Et que c'est un marché très très important pour l'économie du Royaume-Uni, puisque ça représente plus de 50% de tous les échanges mondiaux que le Royaume-Uni fait.
Et il y a des usines de BMW en Grande-Bretagne, il y a Airbus en Grande-Bretagne, il y a toutes sortes d'industries européennes qui sont basées en Grande-Bretagne. Que va-t-il advenir de ces employeurs advenant une sortie Brexit?
Voilà, alors imaginons que le référendum soit positif et que le Royaume-Uni se trouve à négocier. C'est une période de négociation qui prendrait environ 2 ans.
Oui.
En quelque sorte, une nouvelle relation avec les pays membres de l'Union européenne. D'une part, je voudrais dire de manière très très claire que l'Europe ne sera pas défaite par ça. C'est très important d'être conscient de ça. Quand on regarde le nombre de pages de législation qui sont communes, on appelle ça les acquis communautaires. C'est toute la législation commune à tous les membres de tous les États membres de l'Europe. On parle de 100 000 pages de législation.
Oui.
Si vous êtes un pays membre, vous avez mis ça en place au cours des années. Si vous êtes un nouveau candidat, par exemple, si le Canada un jour décidait de vouloir joindre l'Union européenne, ce qui est vraiment pas pensable, n'est-ce pas? Ça prendrait quand même 2 ans à 2 ans et demi au gouvernement Canada de revoir cette législation-là, à temps complet.
Oui, oui, bien sûr.
Vous imaginez le travail extraordinaire de fabrication, de refabrication de la législation canadienne que ça voudrait dire.
C'est très lourd. Donc, et si les Britanniques choisissent le Brexit, ils auront aussi la question des Écossais, la question nationale de l'Écosse, oui, la question nationale de l'Irlande du Nord. Ces régions-là du Royaume-Uni ont adhéré à l'Union européenne beaucoup plus que les Anglais et ils souhaitent que la Grande-Bretagne demeure au sein de l'Union. Et si le Brexit devait être choisi par les électeurs, ces régions-là vraisemblablement voudraient peut-être refaire leur référendum dans le cas de l'Écosse.
Oui, effectivement. Donc la première chose, c'est que le Royaume-Uni aura renégocié toutes ses relations avec l'Europe et que certainement ça va rendre les échanges entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe très très difficiles. D'autre part, effectivement, il est fort probable que, et je dirais là, on est presque, je veux dire, il y a un consensus général que l'Écosse va sortir de l'Union du Royaume-Uni,
oui,
pour joindre l'Europe et probablement l'Irlande du Nord, peut-être aussi d'autres régions.
Il y a même le Pays de Galles qui serait pas très heureux d'un Brexit.
Voilà. Alors, le cas néanmoins où il y a un consensus total, c'est l'Écosse. Et là, c'est assez impressionnant de voir que déjà, à l'occasion du dernier référendum sur une sécession avec le Royaume-Uni, l'Écosse avait eu, en fait, pour ainsi dire, 48% de oui contre 52% de non. Mais il se trouve que quand on regarde les sondages actuels, si le Royaume-Uni avait à sortir de l'Europe, les Écossais, là, à ce moment-là, d'une manière générale, sont tous en faveur de rester dans l'Europe.
Oui.
Et donc, il y aurait certainement une sécession et on parlerait plus de Royaume-Uni à ce moment-là. On parlerait d'Angleterre, peut-être de Pays de Galles, peut-être d'Irlande du Nord. Mais l'Irlande du Nord est dans une position politique très similaire à celle de l'Écosse. Et comme vous l'avez dit, effectivement, à ce moment-là, on est dans une situation où tout ça transforme complètement le futur de l'Angleterre et des pays, des royaumes associés à l'Angleterre, que sont l'Écosse, que sont le Pays de Galles, que sont
l'Irlande du Nord. Quelqu'un faisait remarquer qu'aucun économiste ministre pratiquement ne s'était prononcé en faveur du Brexit, du British oui. Exit. Alors, on ne trouve aucun économiste qui soit du côté du Brexit. Est-ce que vous avez pu le constater aussi?
Le coût est trop haut. Oui, absolument. Le coût est trop haut, même dans le camp des gens qui soutiennent Michael Gove ou Boris Johnson, qui sont donc les leaders pour la sortie de l'Union européenne, on trouve des économistes qui, dans les estimations les moins dramatiques, en quelque sorte, disent que ça coûtera énormément d'argent aux contribuables moyens du Royaume-Uni. Il y a des gens qui parlent de 1200 euros par an de revenus moyens en chute.
Oui, c'est assez important.
Hein? Et dans les évaluations les moins dramatiques, alors ça c'est les évaluations les pires, mais dans les évaluations les moins dramatiques, on trouve quand même des gens qui disent que c'est une chute des échanges commerciaux qui sont tels que environ 5 à 7% des échanges commerciaux vont être perdus par année. Pendant plusieurs années, peut-être 5 ans, peut-être 7 ans, avant que l'économie du Royaume-Uni se restabilise.
Emmanuel Brunet-Jailly, le temps qui nous est imparti arrive à échéance. Merci pour cet éclairage. J'espère que vous serez des nôtres peu après le 23 juin pour qu'on puisse tirer des conclusions du verdict des urnes, des suffrages exprimés lors de ce référendum du 23 juin. Encore merci d'avoir contacté CLS pour cet éclairage.
Grand merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée.